La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Bonjour. Science et symbole, voilà le troisième volet que je vous propose, pas si éloigné du corps. La question du corps, en fait, est régie par la question du toucher, du voir, de la mesure. Les sciences tiennent le vrai parce qu'on peut mesurer, on peut vérifier. Que dire d'une métaphysique où l'être en tant qu'être ne peut pas être vérifié? Du coup, éclipse totale de la métaphysique, éclipse totale d'un rapport au corps selon une idée haute de l'homme qui repose sur l'intelligence, sur le signe, comme nous l'avons vu la semaine dernière, Maritain va battre en brèche cette idée dans Les degrés du savoir, œuvre publiée en 1932, qui est une véritable somme et qui est un tournant finalement dans sa production abondante philosophique. Et dans ces degrés du savoir, il y a forcément le début consacré aux sciences expérimentales qui mesurent. Mais il va montrer que ces sciences sont articulées sur un symbole. Alors attention, vous avez bien entendu la semaine dernière, symbole, on peut aller vers un signe imaginaire. Et donc, quelque chose qui est une précision moins forte, qui est, on va dire, lunaire, et pas solaire, comme celle du concept. D'où, grand problème, on a comme un paradoxe de la science qui va être soulevé par Maritain. Alors, pour entrer dans ce paradoxe, on va un peu s'amuser, parce que les deux séquences précédentes ont été un peu élevées, et je vous propose de lire l'exemple que propose Maritain dans Les degrés du savoir. Supposons qu'un savant, enfermé dans une chambre de verre dépoli, et qui recevrait par message radiodiffusé les informations expérimentales sur lesquelles il travaille, apprennent un jour l'existence d'une certaine machine capable de projeter son propre poids à une hauteur 300 fois plus grande que la sienne. Il aura peu de peine à se représenter en première approximation cette machine, inconnue en elle-même, comme une sorte de catapulte construite suivant les données fournies, et dont il précisera et corrigera l'image à mesure que de nouveaux renseignements lui parviendront. S'il apprend que cette machine présente les propriétés de ce que les hommes appellent mémoire, c'est-à-dire modifie à mesure qu'elle fonctionne sa manière de fonctionner et de répondre aux excitations, ce qui n'est pas le cas de l'appareil reconstruit par lui, il résoudra peut-être la difficulté en douant l'espace occupé par cet appareil de quelques nouvelles dimensions, selon laquelle le passé de la machine se conserverait et modifierait d'une manière invisible la structure de celle-ci. Nous autres, qui nous promenons dans la rue et logeons à l'auberge, nous pouvons savoir que la machine en question s'appelle une puce. Le savant ne le saura pas, mais l'édifice qu'il remanie sans cesse de fond en comble, au besoin en temps de crise, présentera à chaque instant la somme de toutes les propriétés mesurables relevées dans la puce et actuellement connues de lui. Et il est clair qu'en créant un tel édifice fictif, mais fondé dans le réel et toujours exactement et rigoureusement déterminé, il en saura toujours davantage et plus profondément, mais par la voie du mythe et du symbole sur la nature de la puce. Il serait inexact de dire qu'il ne connaît pas cette nature. Il ne la connaît pas ontologiquement ou en elle-même. Qu'on excuse la simplicité de cette métaphore. Elle traduit dans le langage des sens la façon dont le symbolisme et le réalisme s'unissent indissolublement dans les parties les plus hautement conceptualisées de la physique théorique. L'erreur serait de les disjoindre et de les opposer ici. Dans ce domaine particulier, ils composent la chaîne et la trame d'une même étoffe. C'est en créant ces mythes les plus audacieux que la théorie physique scrute le plus profondément, à sa manière qui n'est pas celle de la philosophie, la réalité matérielle. C'est en connaturalisant l'intelligence avec la réalité matérielle non saisie en elle-même, qu'elle construit sur celle-ci et à la place de celle-ci un univers de symboles ou de mythes vérifiés. Plus elle sert de près la réalité physique, plus elle construit d'êtres de raison éloignés de notre expérience commune. Comme dans le monde fini d'Einstein, où à force de s'éloigner d'un point, on finit par le rejoindre, plus elle nous transporte loin de la nature de l'atome ou de l'électron, considérée en elle-même, plus elle sert de près cette nature. Cet exemple est fondamental parce qu'il permet de comprendre pourquoi la physique actuelle, avec la notion d'incertitude, les lois d'Heisenberg, le problème du vide entre les protons, les électrons et l'absence de matière, la révolution quantique, la quatrième dimension de Einstein, pose un problème du réel. Le réel existe-t-il? Qu'est-ce que le réel? Comment le comprendre? Qui sommes-nous? Et du coup, la seule référence un peu tangible, ce sera le corps, le mien, mais pas le réel du monde qui m'entoure. Donc il y a une perte, on va dire, avec l'apport de la science, de mon incarnation dans un monde concret. Perte d'autant plus renforcée par le phénomène urbain. L'urbanisation fait que nous perdons presque la notion de l'espace et du temps. L'espace est complètement recréé, on peut mettre à bas une colline et la transformer en je ne sais quoi, il suffit de voir Dubaï. Et le temps est complètement perdu parce que quand on est dans un souterrain avec des néons, on n'a plus la notion de la nuit et du jour. Et on peut travailler tout le temps, récupérer. Du coup, ce changement de paradigme lié à l'urbanisation intense fait qu'on va avoir un cloisonnement de nos vies. Ce sera plus un modèle de 1 plus 1 plus 1 qu'un modèle familial ou qu'un modèle de société unifiée. On parle de l'archipel français, on parle de mosaïfication des vies, des lignes parallèles. Voilà, Dos Passos l'a déjà décrit dans Manhattan Transfer avec toutes ces superpositions des vies, des autoroutes qui se croisent. Pensons à 200 km d'autoroute autour de Pékin. Donc c'est très important de comprendre que le réel va se décrire par rapport à mon corps. Mon corps va être le sorte de socle, d'îlot, de référence par rapport à un monde qui s'effrite, qui se délite ou qui change dans ses repères spatio-temporels. Et c'est ça ma référence. Et Maritain, ici, dit non. La physique, avec ses nouvelles découvertes, avec ses nouvelles lois, n'est pas qu'une physique de mesure. Elle ne peut pas avoir le dernier mot de vérité sur le réel, parce qu'elle est éminemment symbolique. Et la physique ne peut pas dire quelque chose, ce qu'il appelle sur l'ontologie, sur ce qu'est la chose. Enfant m'a toujours appris, la physique dit comment ça marche, et la philosophie, pourquoi ça existe. Voilà, c'était basique, mais c'est profondément vrai. Donc, dans comment, on va donner le travail de la force pour qu'une porte tourne. Eh bien, Maritain dit, cette façon de voir le réel, de prendre des mesures, de le quantifier, non seulement elle ne dit rien sur le réel, mais en même temps, elle est symbolique, avec le petit exemple qu'il a donné. Comment peut-il affirmer cette chose? Thank you. la science et le symbole. Maritain vient de nous dire que la science fonctionne sur un mode symbolique, mais soit utile de préciser, la théorie physique n'est pas symbolique comme telle. Elle est, ainsi que nous le notions plus haut, indifférente à une identité réelle décelée dans le comportement mesurable des choses ou de symboles et d'êtres de raison fondés sur ce même comportement mesurable. De fait, nous constatons aujourd'hui qu'elle devient plus symbolique à mesure que sa conceptualisation passe à des degrés plus élevés et que l'explication qu'elle élabore devient tout à la fois plus universelle et plus pure. La complexité épistémologique peut déranger le goût de simplification et de classement facile auquel les philosophes cèdent quelquefois. Pour Maritain, il va y avoir une clarification à faire sur le sens de espace réel. Que signifie espace réel pour un physicien, un mathématicien et un philosophe? La même chose? Peut-être pas, puisque vous avez reconnu dans le physicien le premier degré d'abstraction, il s'agit des sciences expérimentales, le mathématicien le deuxième degré d'abstraction, et le troisième degré avec le philosophe. Maritain propose une petite fenêtre sur l'espace réel dans les degrés du savoir, dans le chapitre 4 sur la connaissance de la nature sensible. Et voilà ce qu'il dit. Pour le géomètre, un espace est réel, qui est capable d'existence mathématique, c'est-à-dire qui n'implique pas de contradiction interne, et qui répond bien à la notion mathématique d'espace, c'est-à-dire qui constitue un système d'objets de pensée vérifiant les axiomes d'une géométrie. Et il est clair qu'à ce point de vue, les systèmes, toutes ces géométries, toutes les géométries plus générales encore qu'on pourrait inventer, sont également vraies. Et donc, tous leurs espaces sont également réels. Il n'y a aucun privilège pour l'espace euclidien, sinon en ceci que la constructibilité des entités euclidiennes dans l'intuition imaginative est le garant fondamental de la cohérence notionnelle des entités géométriques euclidiennes et non euclidiennes. Pour le physicien, qu'en est-il? Un espace est réel quand la géométrie à laquelle il correspond permet la construction d'un univers physico-mathématique qui symbolise, avec les phénomènes physiques de façon cohérente et complète, et où toutes nos lectures de graduation se trouvent expliquées. Et il est clair qu'à ce point de vue, il n'y a non plus aucun privilège pour un espace quel qu'il soit. Pendant longtemps, l'espace euclidien a suffi aux interprétations de la physique pour se construire une image satisfaisante des phénomènes observables. Elle postulait pour l'univers, ainsi que le sens commun l'y invitait, des propriétés géométriques euclidiennes et attribuait à la présence de facteurs d'un autre ordre tout ce que ces propriétés ne permettaient pas de prévoir. Aujourd'hui, elle renonce à ce partage et pour interpréter, dans une synthèse où géométrie et physique soient autant que possible amalgamées, les mesures qu'elle recueille dans la nature, c'est à des espaces sphériques ou elliptiques qu'elle a recours. C'est donc eux qu'elle tiendra pour réels, au sens que nous venons de dire, et demain, s'en pourra être d'autres. Mais ce n'est ni au point de vue du physicien, ni à celui du mathématicien que le problème se pose pour nous, philosophes. Pour nous, il s'agit de savoir quel est l'espace réel, c'est-à-dire en tant qu'entité réelle s'oppose à entité de raison et désigne un objet de pensée capable d'une existence en dehors de la raison, extramentale, non pas certes selon le mode sous lequel il existe dans la pensée, mais bien selon l'ensemble des caractères objectifs eux-mêmes qui intègrent sa notion ou sa définition. Vous le voyez, dans les deux premiers cas, il y a la possibilité d'une infinité. Est dit réel ce qui est cohérent, ce qui n'est pas contradictoire. Mais la relation à l'existence en dehors de la tête, de la raison, on va dire, n'est pas le critère. Tandis que pour le philosophe, est dit réel ce qui s'oppose à un être de raison, c'est-à-dire un être qui n'est pas forcément une existence. Et là, nous ne parlons pas du même réel. C'est très important parce qu'actuellement, le mot réel, pour nos contemporains, est ramené à la première notion. Va être réel ce qui est mesurable, ce qui est quantifiable selon un système euclidien ou autre. Euclidien, c'est encore le plus répandu pour nous du sens commun. Laissons aux physiciens, aux spécialistes les autres. Et du coup, c'est ce critère-là. Et ce critère-là est d'autant plus renforcé que nous avons des instruments de mesure très perfectionnés et que maintenant, c'est le mesurable qui va donner le critère du réel. Je prends un exemple concret. Les sportifs qui, dans mon village, courent, sont pratiquement tous branchés avec des appareils de mesure pour savoir exactement combien ils ont couru, combien ils ont fait de kilomètres, combien ils ont dépensé de calories, etc. etc. Et du coup, l'effort est vraiment réel parce qu'il est quantifiable. Je prends un autre exemple avec les montres connectées. Il est possible d'avoir des courbes de sommeil pour quelqu'un, mettons, de 42 ans qui mène telle vie. On vous dira la courbe du bon sommeil. Et puis, au petit matin, vous avez deux courbes. Celle de la norme pour quelqu'un de 42 ans avec ses conditions de vie et la vôtre de cette nuit-là. Et peut-être que la vôtre ne correspond pas à la courbe de la norme, mais que votre ressenti, c'est d'avoir bien dormi. Vous êtes en pleine forme. Mais au vu de la courbe, vous direz, ah non, effectivement, je ne suis pas en pleine forme, je suis fatigué. Parce que du coup, c'est la mesure qui va conditionner votre ressenti. Donc vous voyez que le rapport au corps, pour nos contemporains, il va passer par la mesure, ce qui va paradoxalement annuler le ressenti réel pour se plier à une mesure normée. D'où l'importance de savoir de quoi on parle quand on parle d'espace réel. Pour le philosophe, il y a toujours un pied dans l'existence et non pas uniquement dans la mesure. La science et le symbole pourraient-elles nous permettre de dire qu'on revient à une forme finalement primitive du rapport à l'intelligence? C'est une question qu'il est possible de poser, étant donné le retour actuellement à une vie autre que la vie selon le logos, avec ce dénigrement finalement du primat de l'Occident qui aurait imposé ses lois. Ce dénigrement qui va très loin pour les droits de l'homme, on ne peut plus avoir finalement d'universalité parce que c'est lié à une culture et surtout au primat du logos. Posons-nous la question et revenons au texte des quatre essais sur l'esprit dans sa condition charnelle, sur le signe et le symbole chez les peuples dits primitifs, pour voir comment Marita analyse cet état nocturne, nous l'avons vu, de la connaissance, c'est un état marqué d'abord par l'imaginaire. Maritain analyse ainsi le fonctionnement. Considérant le primitif, nous pouvons dire que chez lui, la relation de l'esprit à la chose est ambivalente. La même relation est fausse, entre guillemets, selon qu'elle affirme par exemple l'existence des ancêtres composites de la tribu, homme canard ou homme kangourou. Et elle est vraie, entre guillemets, selon qu'elle affirme l'union vitale de l'homme et de la nature, dont ce mythe est le symbole. Mais pour le primitif, une telle distinction n'a aucun sens. C'est que son adhésion elle-même de vérité n'est pas comme la nôtre. L'idée de vérité n'a pas été dégagée pour elle-même. Il adhère en bloc au symbole et au symbolisé. C'est là pour lui, d'une manière indivisible, une image ou une ressemblance de vérité, un équivalent, un als ob en allemand, un als ob de vérité, sans qu'il ait dégagé pour elle-même la notion de vérité. De la même façon, un enfant croit un conte aux aventures d'Alice au Pays des Merveilles. Réveillez-le, tirez-le du monde de l'imagination, il sait bien qu'une petite fille n'entre pas dans le trou d'un lapin. Mais le primitif ne s'éveille pas. Il n'est pas encore tiré du sein maternel de l'imagination, qui lui rend toute la nature familière et sans laquelle il ne pourrait pas affronter les menaces dont il se sent de toutes parts environné. L'implacable dureté de son existence d'habitant des cavernes en lutte avec les bêtes. Le primitif vit dans le pays de la vraisemblance. Et je crois que ce dernier mot nous permet de faire le pont avec les sciences. La vraisemblance ne pourrait-elle pas être aussi appliquée à ce qui est vraisemblable selon la cohérence d'un système et de ses règles mathématiques ou d'un système trouvé pour expliquer le réel tel que Einstein va le trouver, les lois de Riemann qui n'ont rien à voir avec les lois d'Euclide, etc. La question reste ouverte. Il s'agissait simplement de montrer que le mesurable, le quantifiable, a un lien avec le corps dans la mesure où il va réduire le corps à la mesure, alors que le quantifiable, ouvert sur le symbole, peut réintroduire le corps dans sa dimension symbolique. À bientôt, à la semaine prochaine.